RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Sylvie Chanfraud,
Sylviane Billon,
Marie-Pierre Desfossés,
Malou Lebars, et merci à notre dévoué technicien, Guilhem Thiennot. Bonjour à tous, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à la table de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre Bible est ouverte sur un passage du livre d'Isaïe, ce monument prophétique du livre d'Isaïe qui, comme peut-être vous le savez, est un personnage hors du commun. Mais en fait, il nous faut bien reconnaître que dans le livre d'Isaïe, il y a des livres d'Isaïe et qu'on imagine qu'il y a même trois séquences, trois sections différentes, avec sans doute trois Isaïe qui donnent leur nom à ces différentes séquences. Mais si je vous pose la question, est-ce que le livre d'Isaïe, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a quelques textes qui émanent pour vous de cet ensemble si riche? Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent?
Oui, au temps de l'Avent, on se souvient du peuple qui marchait dans la longue nuit, qui a vu se lever une lumière.
Oui, mais alors est-ce que c'est pas justement dans la nuit de la nativité, c'est l'office de la nativité où on lit ce texte-là précisément, hein, le peuple qui marchait dans la nuit. Oui, autre chose peut-être.
Il y a aussi à l'épiphanie, on voit tous les chameaux et les dromadaires qui
affluent, voilà, qui viennent
des fins
vers Jérusalem.
Et moi, je pense au texte qui, de l'Avent, me semble-t-il, où on nous dit que l'enfant mettra la main sur le nid du cobra. Et
oui, voilà. Il y aura une ère de paix qui arrivera. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que le texte que nous allons voir aujourd'hui, que nous connaissons sous le titre « Le serviteur souffrant », hein, c'est un texte énorme, un texte incroyable et à la fois difficile à aborder, mais d'une puissance d'évocation inouïe. Eh bien, ce texte-là, il fait partie de la deuxième séquence, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, donc le second Isaïe, et on peut plus ou moins dater ce Deutéro-Isaïe du temps de l'exil et avec le retour ensuite à Jérusalem, hein, c'est-à-dire que le second Isaïe annonce le triomphe des Perses sur les Assyriens avec la figure de Cyrus, hein, la déchéance dont des Babyloniens, et puis le retour pour les Juifs exilés, le retour pour les Israélites en terre étrangère, le retour dans leur terre et le retour à Jérusalem. Et pour eux, ça apparaîtra comme un exode nouveau et aussi fort, aussi beau que le premier exode peut-être. Hein, parce que ce second exode, cette seconde libération laisse entrevoir la réalisation définitive du destin de Dieu qui est que le règne de Dieu va être universel. On aura cette dimension d'universalité. Alors, je vous propose aujourd'hui de prendre le passage dans la fin du chapitre 52 d'Isaïe. Nous allons prendre à partir du verset 13 et nous aborderons les premiers versets du chapitre 53. Mais nous n'aurons pas le temps de poursuivre jusqu'à la fin du chapitre 53 et ce sera pour une prochaine émission où nous reprendrons l'ensemble du chapitre 53. Je vous propose tout de suite d'entendre ce début. «
Voici que mon serviteur réussira. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, à ce point détruites, son apparence n'était plus celle d'un homme, et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. De même, à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées, des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence tel que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupe d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance.
Nous avons arrêté la lecture peut-être sur ce fameux verset 10, qui est peut-être l'un des plus rudes à entendre pour nous, mais nous y reviendrons. Alors voilà, quelle figure puissante que celle de ce serviteur est mystérieuse figure, parce que ce serviteur, dans le passage que nous avons sous les yeux, ne possède pas de nom. Alors c'est vrai que dans le livre d'Isaïe, dans des chapitres précédents, le serviteur est parfois assimilé à qui? Au peuple d'Israël. Il peut être assimilé au peuple d'Israël Judas, ou Jacob, enfin voilà. Donc en fait, ici, on a un serviteur anonyme. Il n'a pas de nom. Et peut-être, pourtant, on pourrait dire que c'est peut-être la plus grande figure de l'Ancien Testament. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'il nous est dit là? Que c'est lui qui opère la guérison de la multitude, finalement. Hein, voilà. Ce qu'aucun prophète biblique n'avait réussi à faire avant lui. Hein, voilà. Alors, on va essayer de regarder ça d'un petit peu plus près Et puis, regardez d'abord donc, la finale du chapitre 52. Et donc, dans ce qui précède, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Hein, donc voilà, au chapitre 52, verset 4, ce qui commandait toute la suite du chapitre 52, on avait « Oui, ainsi dit le Seigneur Dieu ». Et donc nous, nous prenons au chapitre 52, verset 13, sachant que c'est le Seigneur Dieu qui parle, « Voici que mon serviteur réussira, il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. » Donc là, on a une affirmation quand même qui semble être péremptoire et puis plutôt alléchante, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, avec les termes « élevé », « porté », « grandira à l'extrême », c'est quand même quelque chose de positif, surtout de la part de Dieu, de ce serviteur qui, lui, est proche de Dieu.
Alors que dans toute la suite du texte, qu'est-ce qu'on va nous montrer ?
C'est plutôt un homme abattu. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce qui est visible.
On ne sait même pas si c'est un homme.
C'est rien.
Un serviteur qui n'a plus d'apparence humaine, qui n'a plus rien, qui est méprisé, qui est complètement, et complètement écrasé. Et on a vu le chapitre 10 qui se termine par le Seigneur l'a broyé. Bon, voilà. Alors, ce verset initial, voici que mon serviteur réussira et sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême dans la parole du Seigneur, ça n'est pas rien quand même. Ça n'est pas rien. Ça nous annonce une issue qui n'est peut-être pas du tout envisageable pour le parcours qui sera celui du serviteur dans la suite. Hein. Alors c'est vrai aussi que lorsqu'on aborde un texte comme celui-là, si on est chrétien, on a du mal peut-être... Sylviane, on a peut-être du mal à ne pas imaginer le chemin.
On voit tout de suite, c'est même pas qu'on n'a pas de mal, on voit tout de suite, on imagine, c'est tout à fait fait pour décrire le Christ. Quoi.
Le chemin du Christ.
On se dit, c'est fou, c'était écrit déjà, on a l'impression que quelqu'un est venu, quand le Christ est là, et suivre tout ce qui est écrit, et c'est ce qui va se passer en fait. Hein.
Voilà, donc derrière cette figure du serviteur, c'est difficile... pour nous, de ne pas voir la figure christique. Mais pourtant, on va essayer de lire le texte sans trop avancer de ce côté-là, même si à la fin, on y reviendra, bien sûr. Hein. Mais parce qu'il sera haut placé, élevé, exalté, pour nous, ça fait penser à quoi ?
Ben, à tout l'évangile de Saint Jean sur la passion, la glorification, c'est tout à fait ce qu'on va entendre dans le récit, particulièrement chez Saint Jean, en tous les cas. Même les termes, hein, oui. L'exaltation, la glorification, tout ça, c'est,
voilà, et
c'est Saint Jean.
Il sera élevé, comme dit Saint Jean.
Voilà,
quand j'aurai, pour le Christ, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, on va essayer donc de reprendre un peu ce qui est dit de cette figure du serviteur. Et tout en sachant aussi que c'est difficile avec les termes qui sont utilisés, parce que parfois, il y a des variantes aussi de traduction avec le texte hébreu, selon que on prend le texte avec certaines voyelles et le texte avec d'autres, parce que parfois on pourrait traduire « Voici, mon serviteur agira avec discernement, il sera attaché ». Parfois on peut traduire comme ça, donc voilà. Donc c'est pour dire que ça a suscité infiniment de commentaires. Hein, voilà. Alors, je continue. Le verset 14. Donc, on nous dit « De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, à ce point détruite, son apparence n'était plus celle d'un homme et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. » De même, à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées, des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qu'il ne leur avait pas été raconté, ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Alors à vous, la parole.
La chute est rude, je trouve, hein, entre le verset 13, où on s'attend à avoir une description de la réussite, j'allais dire presque parfaite, enfin exaltée à l'extrême. On s'imagine avoir quelque chose de merveilleux. Et alors là, on se retrouve avec, mais même rien que dans le vocabulaire, quoi. On parle d'horreur, d'apparence qui n'est pas celle d'un homme. Voilà, on a vraiment, on descend, quoi. On pensait aller dans les hauteurs, et puis on se retrouve dans l'horreur, quoi.
Mais avec ici une dimension collective qui est assez marquée quand même, parce qu'on nous dit que les foules, parfois c'est traduit, beaucoup ont été stupéfiés, horrifiés à son sujet, voilà. Donc, et puis après, les questions de verset 15, des foules encore, on parle beaucoup de nations, parfois c'est traduit par beaucoup de nations, hein, et devant lui, des rois vont rester bouche close. Alors, il y a comme une dimension là qui dépasse largement le cadre d'Israël, en tout cas, on peut le dire, hein, c'est comme si quelque chose de la dimension universelle cherchait à se dire à travers ça. Donc, et peut-être aussi avec des expressions qui sont un peu ambiguës, parce que si on nous dit de même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est plutôt dans le sens de stupéfier.
Oui.
Donc c'est quelque chose qui n'est pas intégrable, entendable.
C'est
pas dans l'émerveillement.
C'est pas l'émerveillement béat, quoi. Donc, puisque, non. Comme on vient de nous dire que, voilà, les foules ont été horrifiées. Là. Mais en même temps, il y a peut-être, à la fin du 15, quelque chose d'un peu particulier. On dit, oui, ce qui ne leur avait pas été raconté, ils le voient. Ou ils le verront, hein, parce que c'est de. Traduire par de l'inaccompli aussi, ils le voient ou ils le verront, et ce qu'ils n'avaient pas entendu ou entendu dire, ils l'observeront. Alors c'est un peu étonnant ça, non? Donc il leur sera donné
à voir.
De voir
ce qu'ils n'ont pas entendu.
Ce qu'ils n'auront pas entendu.
Ou ce qui n'est pas entendable.
Ce qui n'est peut-être en tout cas... pas interprétable, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, alors c'est assez particulier parce que on commence par nous dire qu'il y a quelque chose de stupéfiant, quelque chose d'inouï, quelque chose de pas représentable qui leur est offert à la vue. Hein, voilà. Et ça on n'a jamais évoqué ça pour eux, ça n'a jamais été dit. Et pourtant, ça leur est donné à voir. Quelque chose est donné à voir. Alors, on en reste là. Ils sont, comme nous, stupéfiés, interloqués. Nous faisons peut-être partie de ces foules, là aussi.
Et... oui, puis il y a même les rois. Parce qu'on nous dit aussi que les rois vont rester bouche close.
Oui, ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas en parler. Alors, moi, je vous propose une petite interruption musicale avant d'aborder la suite. Thank you. Nous lisons ensemble au chapitre 53 du livre d'Isaïe ce qui nous est dit de ce fameux serviteur souffrant, donc l'une des plus grandes figures bibliques du Premier Testament. Et donc, voilà, il nous est dit que celui-là, il a suscité la stupéfaction et l'horreur même des foules, des nations, qui ont été complètement ébahis devant ce qu'ils ont vu et qu'ils étaient incapables d'interpréter parce qu'ils n'avaient pas entendu dire quoi que ce soit à son sujet. Et le chapitre 53, c'était la fin du 52 ça, et le chapitre 53 commence par cette interrogation qui peut nous intéresser. « Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire ?» Le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé ? Jusque-là, comme acteur, il y avait le Seigneur Dieu, il y avait
mon serviteur,
le serviteur que le Seigneur appelait mon serviteur, et puis il y avait les foules, les nations, enfin voilà. Et là, ce fameux verset 1, nous avons un fameux « nous ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Un « nous » qui intervient là.
Et c'est le « nous » qui parle.
Oui, c'est qui a cru à ce que nous avons entendu, et c'est un « nous » qui a été à l'écoute, qui a entendu. Vous vous rappelez tout à l'heure, les nations, les rois, les foules avaient vu, mais n'avaient pas entendu. Et donc ici, il y a quelque chose qui a été entendu par un « nous ». Alors, même si... on pourrait dire, dans la description qui va suivre, tout ce qui sera dit de ce fameux serviteur souffrant, que sera de l'ordre du négatif, va nous rebuter. Eh bien, l'introduction de ce « nous », ça nous oblige à nous dire que ça nous concerne. Ça parle de nous. Ça nous concerne. Avec cette question, cette double question aussi, qui a cru parce que ce n'était pas croyable, à ce que nous avons entendu dire. Et le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé ? Ben, y a quand même une impossibilité à répondre à ces questions, du moins. Et le verset 2, « Il a poussé comme une jeune plante devant lui. » Alors, on peut traduire un peu différemment. Hein, donc, « Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. » Il n'avait ni aspect, ni prestance telle que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Alors là, je peux continuer peut-être un petit peu. Verset 3, il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. Eh bien, tout ce qui est dit de lui... C'est pas très positif, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça paraît même quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas possible. Une racine sortie d'une terre aride, et puis après, toute la description, des choses qu'on ne peut pas imaginer.
Alors c'est vrai que si on parle, ce serait intéressant de jouer sur les mots, si on parle de la figure du serviteur, ce que le texte est en train de faire, c'est de nous montrer que c'est une défiguration, finalement. C'est une défiguration, puisqu'il n'y a pas moyen de se le représenter. Donc, il n'a pas de forme, il n'a pas de rien. Tout est négatif. Hein. Il n'a ni forme, ni splendeur, pas de beauté. Il est méprisé, refusé par les hommes. Eh bien, cette figure du serviteur... c'est quand même peut-être présenté sous forme d'un kaléidoscope d'expressions comme ça, mais avec des variantes qui disent toutes la même chose, c'est que c'est pas reconnaissable, c'est pas identifiable. N'essayons même pas de nous le représenter. Or, nous sommes tentés quand même d'essayer de le représenter. Eh ben non.
Oui, parce que finalement, dans notre monde à nous... On s'attarde plutôt sur ce qui est beau, qui est désirable.
Oui.
Et donc ici, c'est tout l'inverse.
Oui, voilà. Et donc, nous ne savons même pas comment le... C'est même pas possible de le décrire. Nous ne savons pas comment le décrire parce qu'en fait, il ne ressemble à rien de connu, à aucun modèle. Et il échappe, ce serviteur-là, à toutes nos représentations. Donc, on ne peut pas le penser, on ne peut pas l'imaginer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de difficile, parce que nous, on fonctionne toujours avec nos représentations. Mmh. On fonctionne toujours avec notre imaginaire. Et là, on nous dit, eh bien non, impossible de se le représenter.
C'est doublement inconfortable, en fait, pour nous, de fait qu'on ne puisse pas effectivement se faire une image de ce que ça représente. Et en plus, c'est du négatif, donc ça fait quand même double difficulté.
Oui. Mais en tout cas, ça a un avantage aussi, c'est que nous ne pouvons pas nous identifier à ce serviteur, puisque ce n'est pas représentable. Donc c'est impossible. Cette impossibilité, c'est en quelque sorte peut-être quelque chose qui est bon pour nous, finalement. Nous ne pouvons pas nous le représenter. Donc, d'ailleurs... Est-ce que nous savons nous-mêmes ce que nous sommes? Pas si sûr que ça. En tout cas, le texte va nous dire par la suite que nous sommes avec tout le monde dans le mépris par rapport à cette figure du serviteur. Impossible d'estimer ce serviteur. Voilà, on cache son visage en face de lui. Et le verset 4 qui arrive là, en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction gage de paix pour nous était sur lui et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Alors, quel sacré retournement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un retournement inouï.
Un retournement, mais qui peut quand même rester difficile pour nous d'entendre, enfin de recevoir. Quoi. C'est compliqué qu'on puisse être guéri, sauvé par quelqu'un qui serait souffrant, qui serait humilié. C'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Hein.
On ne peut pas se représenter, de toute façon. Mais donc, est-ce que vous voyez que le nous est en train de prendre conscience que cette figure-là du serviteur méprisé, humilié, broyé, qui n'a l'air de rien, qui ne ressemble à rien, en fait, c'est lui-même qui porte tous nos ratages, toutes nos fautes, toutes nos torts, tous nos péchés. Et du coup, ça les transforme. Ça les transforme en guérison. C'est sidérant. Donc, il portait nos souffrances. Nous l'estimions touché, frappé par Dieu. On pensait que c'était Dieu qui le punissait. Broyé à cause de nos perversités. Et voilà que ce qui vient au bout du compte, c'est que c'est la paix qui nous apporte. La paix, pour nous, était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous aurons à revenir là-dessus. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que dans ses plaies se trouvait notre guérison? En tout cas, que le nous reconnaisse, c'est déjà un sacré chemin. Merci d'avoir été avec nous sur RCF. Je vous propose d'envisager de lire la suite du texte du serviteur souffrant dans une prochaine émission.